tous, nous traversons l'actualité culturelle estivale qui trouve toujours une place autour de la grande table. À 13h50, François Sureau longera la scène et nous fera découvrir l'abbaye de Créteil et son phalanstère d'artistes. Mais avant cela, nous partons au Congo, emmenés par la plume de l'écrivain Arnaud Bertina. L'âge de la première passe, c'est le titre de ce récit indéfinissable, ce flux de conscience qui s'émeut et s'interroge. Un récit déclenché par ses rencontres avec des mineurs prostitués autour d'un atelier d'écriture durant lequel les mots ne s'écrivent pas. La photo française lourde de son passé colonial, aux blessures et aux silences qui entourent celles qui font la vie. La discussion se prolongera ensuite autour des conséquences sociales de la crise sanitaire sur les prostituées travailleurs du sexe, avec Stéphanie Karadec, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et directrice du NI, Thierry Schaffhauser, travailleur du sexe, coordinateur national du STRAS et auteur du blog Ma Lumière Rouge, et Marina Silva Duarte, postdoctorante et membre de l'association PAST.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Arnaud Bertina, bonjour.
Bonjour.
Alors parlez-nous un peu de cette idée de retranscrire quelque chose qui est de l'ordre du récit, pas tellement du récit de voyage, mais de l'expérience, mais une expérience intérieure.
Oui, intérieur et puis aussi très 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 extérieur, quoi. C'est-à-dire se frotter vraiment à quelque chose qui m'est complètement radicalement étranger. En fait, je ne suis pas essayiste, j'en ai pas les compétences, j'ai peut-être pas non plus la langue et la culture de l'essayiste. Je viens vraiment du roman et je voulais donner à ce récit qui est le récit d'une expérience faite sur 4 années au Congo. Je voulais lui donner justement un tour un peu plus ouvert, un peu plus fracturé que celui de l'essai. Dans l'essai, peut-être on met en forme tout un système de pensée qui est déjà à peu près clair. Alors que là, en écrivant ce livre, je cherchais aussi ce que je voulais dire. Je cherchais à nommer exactement ce dont je venais de faire l'expérience au Congo. Et donc, il fallait une forme qui reste très très ouverte, ouverte à l'accident, ouverte aux souvenirs qui pourraient surgir en écrivant.
Ouverte aux ressentis aussi. Voilà. On n'est pas dans une attitude entièrement réflexive.
Non. Il fallait vraiment partir de ce que j'avais vu et essayer de comprendre pourquoi ça m'avait bouleversé. Pourquoi est-ce que les témoignages de certaines de ces jeunes filles, ou leur silence, ou les moments de joie, de fête, etc., pourquoi toutes ces choses-là m'ont bouleversé? Et donc à la fois essayer de réfléchir à ça, mais aussi de croiser ça avec ma propre expérience de vie, pour essayer de voir à quel endroit ça venait me chercher, en fait. À quel endroit ça me bouleversait, à quel endroit ça me permettait aussi de progresser, de penser différemment, de ne pas être la même personne au début du livre et à la fin du livre, de ne pas être la même personne au début de ces voyages-là au Congo et à la fin de ces voyages-là.
Alors, vous parlez de voyage initiatique d'une certaine manière, puisqu'il y a le voyage fait au Congo, les voyages, puisque vous parlez de 4 années, mais ce ne sont pas 4 années consécutives. Il y a eu plusieurs séjours,
oui.
À la fois à Pointe-Noire et à Brazzaville, au Congo. Et puis, la rencontre avec cette ONG, ASI, qui s'occupe de mineurs qui ont entre 13 et 17 ans.
Oui, tout à fait. Oui. En fait, ASI, c'est une toute petite ONG avec peu de moyens, mais deux équipes qui travaillent d'une manière formidable, effectivement, dans ces deux villes-là, qui sont les deux villes principales. Grosso modo, il s'agit d'aller trouver ces mineurs dans les 6 lieux de prostitution et puis de leur proposer en fait un accompagnement pendant 3 ans. Et le but de cet accompagnement sur 3 ans, de ce programme, c'est justement d'arriver à leur donner un autre métier et de les rendre autonomes ensuite financièrement. De faire qu'au bout des 3 ans, elles n'aient plus besoin de leur prostitution pour survivre, pour nourrir leur enfant, etc. Donc ce sont des petits métiers, c'est la coiffure, la couture, la mécanique, l'électricité, et la pâtisserie. Mais les filles, en fait, saisissent cette opportunité comme une vraie chance justement pour quitter le milieu de la nuit qui est au Congo peut-être encore plus qu'ailleurs extrêmement violent. La plupart des rapports tarifés en fait tournent au viol. Les filles sont très très peu payées, c'est vraiment une misère, le prix de la passe pour ces jeunes filles là.
D'ailleurs, vous faites des comparaisons dans le livre, vous comparez avec un ou deux plats de nourriture au restaurant un restaurant modeste.
Oui, je paye plus cher mon déjeuner là-bas dans un restaurant modeste, une paillote, que le prix d'une passe avec ces filles-là. Donc il y a quelque chose qui est en permanence de l'ordre de l'insulte et de la blessure pour ces filles-là. Et donc quand elles voient arriver les infirmières qui sont en maraude la nuit, elles vivent ça comme une chance, une opportunité absolument dingue pour elles. Donc elles ont souvent à cœur de saisir cette opportunité-là.
Alors ce qui est particulier dans ce récit, Arnaud Bertina, c'est sa forme, ou plutôt ses formes, puisqu'on ne peut pas parler d'un livre homogène. Vous suivez non pas la chronologie des événements, mais pas dans un journal de voyage, forme connue de l'écrivain, mais on est quand même dans un voyage avec cette altérité que vous assumez Et il y a en quelque sorte un narrateur, alors qu'il n'y a pas de fiction, il y a un narrateur qui est vous, qui passez votre temps à vous interroger sur ce que vous pensez de ce qui se passe autour, et vous méfiez de ce que vous pensez d'une certaine manière.
Mais beaucoup, effectivement, en fait, j'ai eu la chance quelquefois d'être face à des aveux, face à des morceaux de récits de vie, et puis de me taire, d'avoir le réflexe de me taire, c'est-à-dire de me méfier de mes réactions de pensée. Je vais vous donner juste un exemple qui me semble très parlant, c'est une jeune fille qui a été abandonnée à l'âge de 8 ans par sa mère, qui est partie vivre à 200 km de Pointe-Noire. Et un jour, je demande à cette jeune fille, mais qui a aujourd'hui 16 ans, qui est elle-même maman d'une petite fille de 3 ans, et je lui demande, est-ce que tu voudrais revoir ta mère ? Elle me dit oui, mais je n'ai pas l'argent pour les cadeaux et je n'ai pas l'argent pour le train. Alors moi, mon premier réflexe, c'était de dire, mais l'argent des cadeaux, mais en quoi tu as besoin d'amener des cadeaux à ta mère ? Elle t'a abandonné, déjà bien heureuse si elle te voit revenir, si elle te voit avoir envie de la revoir, etc. Et ça, c'est un réflexe typiquement français, c'est-à-dire on se dit, voilà, ma dette vis-à-vis de mes parents n'est pas si grande que ça. Or, en fait, c'est cette jeune fille qui a raison, évidemment, c'est pas moi, c'est impossible. Si elle pense, en ayant grandi dans ce bain culturel-là, congolais, etc., si elle pense qu'elle ne peut pas se pointer devant sa mère sans avoir de cadeaux, nécessairement, il faut qu'elle ait des cadeaux. Et moi, si je lui dis, mais non, mais viens les mains vides, je suis inaudible, en fait. Elle pensera que je suis complètement à côté de mes pompes, etc.
Alors, ça tient du statut des parents que vous travaillez aussi dans le livre, hein, la question de parents qui sont des sortes de dieux vis-à-vis de l'enfant. Mais avant même d'en arriver à ces thématiques-là, la question du voyage, elle est multiple puisque c'est à la fois le mouvement d'aller découvrir, d'aller se frotter à une altérité, mais il y a aussi à quel point le voyage va rentrer aussi dans la plume de l'écrivain et à quel point il va finalement le changer aussi.
Ah oui, de toute façon, même quand on écrit une fiction, je crois que c'est ça l'objectif un peu, c'est d'être changé par ce qu'on écrit, quoi. C'est que ça tourne véritablement à l'expérience pour soi-même déjà, quoi. Parce que sinon, ensuite, on peut pas être espérer que le livre soit gorgé de vie, gorgé de surprises pour le lecteur, si déjà il l'a pas été pour l'auteur. Donc effectivement, moi, en allant au Congo, je suis très précautionneux, je fais très attention parce que je crois que le réflexe français très par rapport à l'universalisme d'une certaine pensée, etc., qui dirait que certaines valeurs sont les mêmes en France et au Congo, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Surtout quand on est avec une partie de la population, en l'occurrence ces jeunes femmes, qui est vraiment parmi la plus pauvre d'un pays déjà lui-même très très pauvre. Donc je me dis, essaye de faire taire un peu en toi cet occidental universaliste qui déblatère, et essaye d'entendre vraiment l'intelligence de ces jeunes filles. C'est elles qui vivent ces situations-là, c'est elles qui savent si la situation est insupportable ou si au contraire on peut arriver à bricoler pour ne pas se sentir coulé, noyé, etc. Donc en voyageant comme en écrivant, je cherche à me renouveler, je cherche à devenir quelqu'un d'autre. Et si l'écriture avait pas cette fonction-là chez moi de renouvellement, de mue, je crois que j'aurais peut-être fini par arrêter d'écrire. Alors que j'ai l'impression, très lentement, très patiemment, j'ai l'impression de gagner à chaque fois une autre épaisseur de peau. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément.
Ah, et le voyage, au moment où il est accompli, au moment où il est accompli d'ailleurs à plusieurs reprises, ça ne prend pas non plus des formes littéraires connues comme celle du journal. Le livre écrit au fur et à mesure du voyage, c'est une vision mémorielle, rétrospective qu'il vous vient. Et là, vous convoquez avec vous les grands voyageurs de la littérature aussi.
De temps en temps. En fait, pour tout vous dire, je n'avais pas prévu d'écrire ce livre. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ces séjours-là, je ne savais pas, même pas qu'il y en aurait d'autres. C'est à la fin de chaque séjour que, en accord avec Asie, j'ai décidé de revenir. Et donc c'est seulement au bout du troisième ou du quatrième séjour que j'ai bien vu qu'il y avait sans doute un livre derrière tout ça, parce que je voyais que je racontais en permanence les mêmes anecdotes, et je voyais aussi que j'avais encore des choses à comprendre sur ce que j'avais vécu, et que peut-être l'écriture était un moyen de comprendre ce que j'ai vécu. Et donc le livre n'était pas anticipé. C'est pas parce que je partais au bout du monde que je me disais tout de suite, ah chic, je vais faire un livre sur ce que je vais vivre là-bas. Je l'ai pas du tout voulu comme ça. Donc effectivement, c'est un livre qui est intégralement rétrospectif. Et donc je reviens sur les souvenirs que je garde du voyage, sur les anecdotes qui m'ont marqué, et puis j'essaye de comprendre ce qui était en jeu. Pourquoi est-ce que à un moment j'ai été ému? Pourquoi est-ce qu'à un moment tel ou tel regard m'a sidéré et que je l'ai encore en mémoire? Essayer de comprendre pourquoi Fanette, par exemple, me confie le mot sorcière, mais du bout des lèvres, de la manière la plus silencieuse possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Pourquoi est-ce que sur le moment je comprends qu'elle me confie quelque chose de très lourd, alors que le mot sorcière, a priori, à moi, me fait pas grand-chose, puisque évidemment en Europe, on n'y croit plus du tout, etc. Donc aussi, c'est revoir toutes ces explications du monde qui sont typiquement celles de l'européen, et les mettre en balance avec le regard de ces filles sur la réalité. Par exemple, les esprits, elles y croient toutes. Moi, a priori, je n'y crois plus. Sauf que leur description du monde avec tous ces esprits est une description 100 fois plus habitée que la nôtre. Nous, grosso modo, notre...
Et poétique. Et vous y faites référence. Poétique. Votre oreille s'arrête quand même sur ces notions-là, non pas pour des raisons religieuses ou de croyances, mais parce que c'est l'oreille poétique qui s'y arrête.
Parce que c'est incroyablement beau. Et je me dis, mais alors qui a raison? Est-ce que c'est nous, les Européens, avec notre description pleine de solitude du monde, ou est-ce que ce sont ces jeunes femmes qui sont dans un monde qui est 100 fois plus habité que le nôtre? Après tout, pourquoi est-ce que ce serait pas l'explication la plus belle qui serait la plus vraie?
Mais est-ce qu'elle s'oppose au fond? Alors parmi les grands noms que vous citez, il y a tous les voyageurs. Alors il y a Homère avant tout, hein, Homère auquel vous consacrez tout un passage, qui apparaît comme un extrait, presque comme s'il était lui-même bénéficiaire de l'atelier parmi d'autres. Hein. Il est convoqué avec vous, c'est-à-dire que votre mémoire rend par fragments un certain nombre de lectures qu'elle a reçues. Et c'est aussi ça, ce travail du flux de conscience. Peut-être on va écouter Nicolas Bouvier, qui fait partie des noms aussi que vous convoquez.
J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce goût des voyages que vous avez, en quoi est-ce qu'il consiste exactement, qu'est-ce qu'il vous apporte?
Alors, je crois que pour Vernet et pour moi, le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas la négation, qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. C'est un, pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif, et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi, et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine.
Si je vous comprends bien, votre voyage est plus une approche humaine qu'une approche géographique.
Beaucoup plus, mais cependant, quand on voyage très lentement, on constate que les deux éléments se marient et finissent par se fondre.
Vous voulez dire que l'homme est inscrit dans une réalité géographique,
enfin, oui. Il en est. Oui, et on met un certain temps à comprendre la relation de cause à effet qui existe entre ces deux aspects, si vous voulez, du voyage.
Arnaud Bertina, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a à la fois cette volonté de se décentrer dans le voyage et en même temps on voyage toujours par rapport à soi et par rapport à une terre.
Oui, cette expérience-là que j'ai faite au Congo, j'aurais pu la faire aussi ailleurs, j'aurais pu la faire en France, j'aurais pu la faire... je crois qu'il y a d'abord une espèce de disposition mentale pour le voyage, c'est plus ça. Ensuite, le cadre, des fois, peut avoir quelque chose de pittoresque, et ce pittoresque, il peut être un peu trompeur, il peut être... je pense que des filles vivant dans cette misère-là, souffrant de la violence du système économique ou de la violence des hommes, malheureusement, je pense qu'on peut en rencontrer partout... il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au Congo pour les rencontrer, ces jeunes femmes-là. Il se trouve que moi, c'était au Congo, mais effectivement, il y a d'abord, c'est d'abord une question de regard. Et Bouvier raconte bien au début de L'usage du monde réécoutant la radio suisse, alors qu'il est déjà parti depuis quelques semaines, il est sidéré d'entendre ces voix auxquelles pourtant il est très habitué, et de les entendre avec beaucoup de distance, et d'entendre toute la morale qu'il entend, lui, dans la façon d'articuler, dans la façon de raconter, etc. Et il est sidéré d'avoir déjà réussi à prendre autant de distance avec ce qu'il a constitué dans ses 20 premières années.
Alors vous, Arnaud Bertina, le sujet que vous choisissez, en tout cas qui vous est tombé dessus plutôt, puisqu'il n'était pas le projet d'un livre et qui n'est pas traité par la fiction, c'est aussi un grand sujet de la littérature. La prostitution, c'est un grand sujet du 19e siècle. D'ailleurs, vous le dites, vous assumez les maîtres qui sont passés avant. Vous parlez de Victor Hugo, vous convoquez Balzac. Comment est-ce que on peut aujourd'hui encore écrire quelque chose qui n'est pas du registre de la fiction, mais qui est une sorte de récit empathique qui fait presque l'expérience à la fois de compréhension du client et aussi de la prostituée. Je crois qu'il y a ce travail-là qui est fait à travers ce jeu.
Oui, toujours se méfier des étiquettes trop simples. La figure de la prostituée ou la figure d'une certaine vie violente, elle est souvent agitée par la littérature et puis d'une manière qui est des fois un peu trop pittoresque, un peu trop masculine, ça c'est certain, et un peu trop pittoresque. Là, je voulais essayer de montrer que dans ces vies-là, il y a à la fois rien de pittoresque, il y a beaucoup de douleur, mais je voulais aussi ne surtout pas les enfermer dans ce schéma-là de la victime. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi vu ces jeunes filles-là, à certains moments de la journée, être pleines de vie, avoir envie de sortir, avoir envie le soir de retourner dans les lieux de prostitution, et je m'interdisais de le taire, ça, au prétexte que c'est une vie intégralement dramatique. Elle n'est pas intégralement dramatique, c'est-à-dire que même quand on est victime mineure, comme elles le sont, il reste toujours un élan de vie, et je voulais parler aussi de cet élan de vie. Je voulais pas le masquer pour que le portrait de la prostituée soit bien celui que l'on connaît.
Et qui se mêle d'ailleurs à leur jeunesse, puisque ce sont des prostituées mineures, très jeunes, ce sont aussi des adolescentes, même si elles sont parfois déjà mères.
Mais voilà.
Cette jeunesse-là aussi, elle passe dans le texte.
Mais c'était très important pour moi, parce que sinon je triche. Si je n'en fais que des victimes, en fait, ça ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire, ça correspond au fantasme que je vais en avoir, c'est-à-dire de dire, ah voilà, j'ai rencontré des jeunes femmes complètement perdues, alors qu'en fait, non, je les ai aussi vues être très joyeuses. Et je me dis, il faut effectivement faire se superposer les deux situations. À la fois celle qui est victime de violences extrêmes, et puis en même temps celle qui a encore un peu d'espoir, celle qui trouve encore l'énergie de s'amuser, celle qui trouve encore l'énergie de faire des blagues, etc. Non pas pour édulcorer le portrait, c'est pas du tout ça, mais c'est juste pour rendre justice au fait que elle est encore en vie, elle n'est pas complètement éteinte. Oui. J'ai rencontré peu de filles complètement éteintes ou broyées parce qu'elles vivent là dans ce séjour-là.
Alors peut-être quelques mots sur ces ateliers d'écriture. Comment est-ce que vous avez pu faire écrire et proposer d'écrire quelque chose, puisque vous racontez vous-même qu'il y a un problème de langue, non pas qu'il n'y ait pas de français, le français est plutôt bien maîtrisé, mais ce n'est pas la seule langue, c'est une langue symbolique.
Oui, exactement, et ça, j'arrivais très naïf là-bas, je me disais c'est la zone francophone, c'est bon, j'aurais pas de problème d'interprète, etc., je perdrais pas dans ce qu'elles vont me raconter. Puis en fait, évidemment, c'était complètement idiot de ma part, puisque le français obligatoirement dans ces pays-là a un certain statut, et ce statut, donc qui est par exemple, c'est la langue parlée par le système politique, c'est la langue parlée par la justice,
par la police,
et aussi par l'enseignant, et donc c'est une langue dans laquelle ces jeunes filles se voient en permanence exclues, repoussées, dégradées, donc évidemment ça peut pas être la langue de l'intime. Moi, quand j'arrive la bouche en cœur ensuite et que je leur propose de me parler de ce que ça leur fait le soir de vivre ça, en fait elles ont pas les mots en français, ou alors elles ont peut-être trop de respect pour le blanc, pour l'homme qui leur pose des questions, et donc elles ne diront pas certaines choses.
Ce n'est pas la langue des émotions,
non.
Mais c'est votre langue à vous d'émotion, et ça ressort fortement. D'ailleurs, on a le sentiment que le narrateur, qui a choisi de ne pas faire de la fiction pourtant, est sans cesse très inquiet de ce qui pourrait sortir de sa plume et des images qui lui viennent.
Exactement, je suis obligé de faire très attention. Pourquoi ? Parce que en France, la langue française, pour moi, c'est effectivement celle des émotions, à la différence de ces jeunes filles-là, mais c'est aussi la langue de la police en France, c'est aussi la langue de l'enseignement, etc. Et donc, quand on écrit, quand on est poète, romancier, obligatoirement, on fait aussi cet effort-là de nettoyer la langue qu'on veut écrire de toute cette présence-là, de la présence scolaire, de la présence policière, de la présence de tous les slogans publicitaire qu'on a dans la tête, etc. Donc, d'une certaine manière, je proposais à ces jeunes filles-là, mais de manière très modeste, de faire le même travail que moi quand j'écris en français, c'est-à-dire d'essayer d'écrire un français qui ne sera pas celui des publicitaires, qui ne sera pas celui des hommes politiques, etc. etc. Sauf que le temps était compté, j'avais beau faire des séjours un petit peu longs, d'un mois à peu près, évidemment, il en faudrait beaucoup plus pour arriver à faire qu'elle parle un français qui soit vraiment le leur et non plus celui de l'école. Donc résultat, très souvent, l'atelier d'écriture a tourné en fait à la conversation, donc des conversations individuelles que je menais au vu et au su de tout le monde. J'écrivais ensuite un texte à partir des prises de notes et puis ensuite je relisais ce texte-là avec les jeunes filles. Et si elles voulaient le corriger, si elles voulaient faire quoi que ce soit avec le texte, ensuite évidemment elles étaient libres de le faire.
Il y a eu des productions quand même, il y a eu des productions qu'on retrouve. Le livre est émaillé de ces travaux d'atelier d'écriture et on voit que dans le travail de la langue, il y a tout ce travail lié directement à l'inconscient qui est aussi le travail de l'écrivain, en tout cas ce qui se passe quand on fait de la fiction, souvent. Par exemple, le mot souvenir qui apparaît sous trois orthographes différentes, trois lapsus différentes, qui vous intéressent.
Mais révélateur à chaque fois. Mais vous savez, ce qui est amusant, c'est que la quasi-totalité des textes, je les ai écrits avec elle, donc disons, c'est plutôt ma langue, mais les quelques phrases qui m'ont le plus bouleversé sont évidemment, par contre, des phrases écrites ou prononcées telles que par ces jeunes filles-là. Donc, par exemple, Fanette qui dit « Depuis tout ce qui lui est arrivé, elle a beau sans cesse prier, on continue de l'abandonner. » Ça, c'est pas une phrase que j'aurais été capable d'inventer, ça. Il fallait vraiment que ça vienne de l'une d'elles. Et c'est une phrase que je trouve déchirante. Il y a pas beaucoup de phrases que je trouve plus déchirantes que ça. Je ne cesse de prier et on continue de m'abandonner. Il y a vraiment l'idée d'être complètement à nu face à la vie dans cette phrase-là. Ou alors, quand je pleure, ma fille, donc qui a 3 ans, ma fille sèche mes larmes. C'est pareil, ça, je peux pas inventer cette scène-là. C'est une scène qui est déchirante, une petite fille qui essaye de consoler sa mère. C'est pareil. Donc à chaque fois, ça a beau être ma langue, les quelques phrases les plus fortes de ces témoignages-là, ce sont des phrases qui ont vraiment été dites ou écrites par les jeunes filles.
Alors là, c'est l'oreille poétique qui s'arrête sur ce français du Congo. C'est aussi un français travaillé par une autre culture. Et là, vous arrêter aussi dans le texte sur ces apparitions-là de mots. C'est comme si plusieurs voix rentraient dans le livre. Mmh. Cette polyphonie-là, c'est aussi une forme de recolonisation, la manière de se réapproprier le français, qu'on a pu voir dans d'autres langues d'ailleurs.
Alors, ce qu'on a pu voir dans d'autres langues, mais de manière très symptomatique, le français est très peu métissé en fait. Normalement, on aurait pu imaginer que dans toutes les anciennes colonies, le français devienne une sorte de créole à chaque fois, particulier, etc. Or, justement, au contraire, le français ne l'est pas. Ça veut dire que le français conserve une autorité qui est assez désastreuse parce que justement cette langue-là ne peut pas devenir la langue de leurs émotions et de leur vécu vraiment sur place. Ça peut passer que par le lari, le kituba, le lingala, etc. C'est-à-dire redire quelque chose qui leur soit propre. Mais là, le français est en fait un français intact qui n'est pas du tout que les gens ne se réapproprient pas. À la différence donc de ce qui peut se passer avec d'autres langues qui ont peut-être été moins imposées de manière violente.
Ou qui sont plus souples dans leur structure grammaticale aussi, d'origine aussi.
Aussi, effectivement, c'est possible. Ouais.
Est-ce que vous acceptez de nous en lire un petit extrait de l'âge de la première passe?
C'est le début d'un chapitre. Ont-elles besoin de se raconter, de se confier? Ont-elles besoin de moi? Si elles ont parfois quitté l'atelier ou coupé court à nos échanges en me confiant que remuer certains souvenirs est douloureux, pas une, cependant, pour contester l'intérêt de s'aimer mieux, d'éloigner un peu la honte, de pouvoir dire « c'est mon histoire, mais peut-être puis-je ne pas la subir jusqu'au tombeau ». Dans Les Nègres, Genet fait dire à Diouf « ne lui refusez pas une légère détente, si sa souffrance est trop forte, qu'il se repose dans la parole ». Au sein de la concession, des enseignants, des éducateurs et des psychologues travaillent pour les bénéficiaires du programme. Elle pourrait avoir le sentiment qu'on parle dans leur dos, que des choses se décident sans elle. Mais j'ai souvent entendu ces adultes se rappeler les uns aux autres qu'ils devaient travailler à ce qu'advienne une parole personnelle, exprimant des désirs et des ébauches de solutions. S'émanciper, notamment par la parole. Le récit de soi est un animal qui ne se laisse pas approcher facilement puisqu'il faut déjà se respecter un tant soit peu, ou s'accorder un peu de valeur, pour être en mesure de s'en donner un peu plus en parlant de soi ou en s'écrivant sur les feuilles volantes distribuées par le Mundele. Cercle vicieux, aporie. Note pour moi-même. Il est possible de sortir de ce cercle vicieux en posant que l'écriture, voire toute la littérature, parle non pas de ce que nous pensons, mais à ce que nous pensons. Elle donne la possibilité de ferrailler avec ce que nous pensons. Des brèches apparaissent, qui sont des failles, des défilés, qui laissent entrevoir des contradictions ou des contradicteurs. Quand on se méprend, on fait du livre un soliloque ou une tribune. Il est alors presque sans mystère, sans tension. Quand au contraire on parvient à constituer et à tenir cette adresse, parler à nos idées, à nos représentations, immédiatement il y a dialogue, conflit, élan, et les phrases deviennent alors des rivières souterraines forant les massifs avant de jaillir et d'être grossies ou contestées par tous les torrents qui les rejoignent ou les affluents qui les détournent un peu et les emmènent ailleurs. Je me serais éloigné des filles en suivant ces eaux vives? Pas certain. L'écriture permet parfois d'accepter le tumulte qu'on a en soi et de narguer l'injonction qui nous est faite par la vie sociale dit Maître Bon Ordre.
Merci d'avoir lu pour nous. Quand on entend cet extrait Arnaud Bertina, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'un écrivain est allé faire dans cette ONG, à côté des médecins, des psychologues, des gens qui s'occupent des questions pratiques, sociales? Et en même temps, on se dit, tout à fait à l'inverse, l'écriture est très habituée à la question des blessures profondes, elle ne travaille qu'avec ça. Oui. Finalement, elle est presque le premier médicament.
Alors, médicaments,
possible.
Médicaments, j'ai toujours un petit peu de mal parce que j'ai du mal avec l'idée que on serait tous malades et que l'écriture serait une sorte de soin. Je pense des fois que l'écriture, elle est aussi là pour augmenter la puissance de vie, et qu'elle est aussi là pour des fois souligner la vie quand elle est là, voire même refaire circuler de la joie. Pour moi, en écrivant ce livre, j'ai l'impression, d'une certaine manière, de faire le même travail que quand je fais une fiction. C'est-à-dire que, pourtant, il n'y a pas une once de fiction là-dedans. Mais c'est toujours essayer de revenir du côté de la complexité de ce qu'on vit. Toujours essayer de décrire chez les uns, chez les autres, que ce soit des personnages de fiction ou des vraies jeunes filles rencontrées comme ça au Congo, de décrire à quel point la vie, elle est tendue, elle est riche, elle est complexe, elle est difficile à manipuler. En fait, ça revient à fuir le cliché. Si on écrit, je pense que le but de tout écrivain, bon ou mauvais, génial ou débutant, si on se penche vers la littérature, c'est en espérant comme ça déconstruire certains clichés. Et donc là, le cliché de la prostituée, de la misère, à la fois le décrire de manière réaliste.
Parce que vous l'avez tout le temps en tête quand même. Hein. C'est des images aussi de Fantine, des misérables qui vendent ses cheveux et ses dents. Ouais. Ces images-là de la prostitution du 19e, vous les avez en tête et vous les assumez.
Oui.
De par votre culture de français,
oui, bien
de racines judéo-chrétiennes, tout ça, ça remonte.
Oui, c'est là.
En Aubertine en permanence.
Oui, ou même Simenon qui voyait une prostituée par jour. Enfin, toutes ces choses, elles sont là. Mais encore une fois, c'est quand même essayer, en décrivant le parcours de ces jeunes femmes-là, de constituer un petit lieu accueillant pour elles. C'est-à-dire un lieu où elles se sentiront respectées dans leur intelligence, dans l'intelligence qu'elles ont de leur situation, mais aussi dans le fait qu'elles arrivent à supporter cette violence-là. C'est-à-dire qu'il y a encore de la vie en elle. Et pour moi, le seul... Parce qu'évidemment, ce livre, elles ne l'ont pas entre les mains et puis elles ne le liront jamais. Mais le souci éthique que j'avais, c'était de ne pas les rabaisser. En écrivant.
De ne pas en rajouter.
Et d'aller aussi chercher ce que j'aurais peut-être pu laisser de côté, c'est-à-dire les scènes de fête, etc. Alors que non, c'est là, ça fait partie de la réalité. Et ça annule pas l'extrême violence de ce qu'elles subissent. Donc là, pour moi, c'est le même effort d'écriture que quand je fais de la fiction.
Est-ce que ça vous a gêné que ça n'en soit pas de la fiction, Arnaud Bertina? Est-ce qu'à certains moments, on voit des évasions poétique, des allers-retours dans le focus interne notamment, hein, dans le fait de diversifier les points de vue, de se mettre à la place de l'un puis de l'autre. Non, est-ce que ça vous a entravé?
Non, je pense pas. Au contraire, je pense même que ça m'a fait du bien peut-être de quitter la fiction pour le temps de ce livre-là. Et à aucun moment je me suis imaginé que je pouvais écrire une fiction avec ça. C'est-à-dire que je ne connais pas suffisamment la vie de ces jeunes femmes, je ne l'ai pas suffisamment vécue pour essayer de bricoler un personnage qui serait dans cette situation-là. Donc, à aucun moment ça m'a effleuré et je pense que cette forme très hybride comme ça que vous pointez entre d'un côté mes souvenirs, ma vie amoureuse et leurs attentes, leur vie amoureuse à elles, etc. parce qu'elles en ont une aussi. De quelle manière tout ça pouvait faire un texte assez hétérogène, mais qui peut-être à force de tourner sur lui-même finit par dire quelque chose de ce que j'ai vécu et de comment ça m'a déplacé.
Alors dans sa forme matérielle, le texte aussi, il est très fragmenté, comme l'est la mémoire, comme le sont les sensations et comme le sont les souvenirs. Il y a finalement des lieux décrits mais pas complètement, des pancartes, des noms comme ça qui s'affichent d'une certaine manière. C'est ce sur quoi votre regard s'arrête.
En fait, je prends beaucoup de photos et alors là, c'était très...
Il y a d'ailleurs un livre de photos qui va avec.
Voilà, il y a un livre de photo en fait dans lequel on retrouve les portraits que j'ai fait de ces jeunes filles et qui est publié par les éditions Sometimes. Je prends beaucoup de photos, sauf que là je pouvais pas en prendre. C'est-à-dire je pouvais par exemple le soir quand j'allais en maraude avec les infirmières, j'étais coincé. Évidemment je peux pas faire de photos dans ces lieux-là. J'avais peut-être les sens encore plus en alerte pour essayer de tout mémoriser de ce que j'étais en train de vivre. Les regards, la fatigue des corps, ou au contraire l'électricité qu'il pouvait y avoir dans l'air et tout ça. Comme je pouvais pas m'appuyer cette fois-là sur les photos que je prenais, j'étais obligé d'être peut-être plus en alerte que d'habitude.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Et Arnaud Bertina, on vous a proposé une carte blanche, de choisir un son. Alors peut-être un mot, c'est Bernard Moitié, l'auteur navigateur, que vous avez choisi de nous faire entendre.
Oui, pour cette anecdote que peut-être beaucoup d'auditeurs connaissent déjà, qui date de 1968, il était sur le point de gagner une première grande course en tant que navigateur. Et une fois peut-être qu'il était acquis qu'il allait gagner cette course, il a dérouté son bateau, donc il a renoncé à la victoire. Et a commencé une sorte d'errance de 10 mois dans les mers du Sud.
Peut-être on va l'écouter puis on d'accord. en reparle.
Pierre Lost présente. Bernard Moitessier. Bernard Moitessier, en parcourant les mers du Sud, vous n'avez pas cherché à fuir les hommes?
Non, absolument pas. Je dirais même au contraire. J'ai surtout cherché à m'en rapprocher des hommes, enfin des hommes pris en tant qu'individu. J'ai toujours appris la langue des pays où je devais débarquer. Où je devais arriver, je savais un petit peu de malais, par exemple, avant d'arriver en Malaisie. J'ai toujours essayé de connaître les hommes.
Est-ce qu'il existe une communion entre tous les isolés, entre tous ceux qui, comme vous, sont des vagabonds des mers?
Je crois qu'il existe vraiment une communion, peut-être pas totale, mais enfin... Quand on rencontre des navigateurs de passage pendant les escales, eh bien, on a vraiment l'impression de former un espèce de petit village flottant avec ses coutumes, ses rites. C'est très curieux, du reste. On pourrait vivre des années, j'ai l'impression, ensemble dans un port à 5 ou 6 bateaux, solitaires ou non. On se voit, on parle le même langage. Et c'est un peu dangereux parce que à ce moment-là, la terre est un peu l'étranger. Tandis que quand on arrive seul dans une baie ou dans un port, qu'on est le seul de son espèce, à ce moment-là, automatiquement, on entre en contact avec ses frères de la terre.
Quelle est votre vie sur l'eau? Vous travaillez, vous prenez des notes?
Je prends quelquefois des notes, j'avoue du reste que je n'en prends pas souvent. Non, je suis assez paresseux en mer. Je travaille pour mon bateau, je fais ma cuisine, je m'occupe de la cabine. Et puis alors, je vis en communion intime avec la mer, avec mon bateau, parce qu'un bateau, c'est presque un être vivant. C'est même tout à fait un être vivant, je vous vois sourire, mais c'est pourtant vrai. Et il y a la mer, les nuages, enfin ça, c'est un espèce de monde dans lequel l'homme se fond presque intégralement. La mer n'est plus un ennemi, c'est pas non plus exactement une alliée, loin de là. Mais enfin, on en fait partie au bout d'un certain temps, au bout de quelques jours de mer ou quelques semaines, en général moins d'une semaine, on fait réellement partie de cette immensité.
Je me suis dégagé de la zone des icebergs et puis j'ai fait de l'Est pour aller au Galapagos ou peut-être à Tahiti, je ne sais pas encore. Hein. Mais de toute façon, faites tout pour les Galapagos. Hein. C'est le seul endroit où on me foutrait vraiment la paix. où je pourrais écrire tranquille, pas être emmerdé par tous ces macro-journalistes. Hein, on me foutra la paix là-bas. Vraiment, hein, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée. C'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières. Hein, ça va faire, ça fait 6 mois et demi hein, que j'ai quitté Plymouth. Hein. Mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que c'est quelque chose. Oh, je sais pas si je pourrais raconter tout ça, je sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Je peux pas rentrer en France. Vraiment, je peux pas.
Arnaud Bertina, très émouvant, Bernard Moitier qui décide qu'il est tellement heureux et que rentrer ce serait finalement une erreur, hein. Il part pour sauver son âme.
Mais c'est très beau, et là tout est très beau là dans cet archive que je découvre grâce à vous. J'aime beaucoup d'abord l'idée du solitaire qui est solitaire pour mieux rejoindre les hommes, non pas pour se couper d'eux, il le dit au tout début, mais justement pour être pour mieux les connaître, pour mieux les rencontrer. Ça je trouve ça vraiment très beau. Ensuite, j'aime aussi beaucoup quand il dit la mer n'est plus un ennemi. Quand on arrive à voir que son bateau est une chose vivante, on finit aussi par faire corps avec tout son environnement, avec la mer elle-même, avec tout ce qui peuple la mer, etc. Et ça, ce moment où tout d'un coup, l'homme ne se pense plus contre les éléments, ne se pense plus à l'écart des éléments, quand il ne croit plus que tout d'un coup, il va maîtriser les éléments, qu'il va maîtriser la planète, etc. Je trouve ce moment-là assez magique. Et c'est vraiment pour des moments de dépossession, comme ça, je crois qu'on voyage, et je crois aussi qu'on écrit. C'est justement pour arrêter de se penser supérieur aux autres, arrêter de se penser dans une position de maîtrise, genre je suis narrateur ou je suis écrivain et tout, et puis je vais comme ça organiser un monde. Ben non, en fait, je crois que dans l'écriture, si on est attentif à ce qui se passe dans le travail de la phrase, ce qu'il se joue, c'est la fin de la maîtrise, la fin de ce fantasme-là de maîtrise. C'est justement, au contraire, arriver à rejoindre le monde. Le fantasme de la tour d'ivoire pour les écrivains, c'est vraiment une imbécilité à mon sens. Je crois que si on écrit, c'est justement pour mieux rejoindre le monde, le rejoindre à d'autres conditions, à nouveaux frais.
Avec toutes ces surprises d'ailleurs, avec c'est toutes la ces phrase surprises. Duras, j'écris pour savoir ce que j'écrirais si j'écrivais.
Mais voilà, ça c'est magnifique. Et puis il y a aussi des phrases de Claude Simon qui disent un petit peu la même chose. Mais ça, c'est une citation magnifique de Duras. Je crois que oui, c'est la même chose qui est en jeu là-dedans. C'est-à-dire que quand il se fait connaître en renonçant à la victoire dans cette course, c'est vraiment dire l'idée de compétition ne me va pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère encore laisser la victoire à quelqu'un d'autre. Je me suis presque trompé en m'inscrivant dans cette course. Et je lâche ça. Or, notre monde à nous, même si sur le plan écologique, on est en train de comprendre qu'il faudrait raisonner autrement, notre monde à nous, il est complètement rongé, pourri par l'idée de compétition. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui disparaît quand on écrit normalement, quand on est absorbé, fasciné par la matière qu'on a sous les yeux en écrivant. Je crois que l'idée de compétition, l'idée d'être plus fort qu'un autre, l'idée de l'emporter sur les autres, l'idée de façonner un monde, tout ça, ce sont des idées qui disparaissent. Je crois qu'il y a on traque le moment d'abandon dans l'écriture, je pense.
Alors là, ce qu'il retrouve, lui, c'est aussi une capacité d'émerveillement. Il parle quand même de la beauté de ce paysage. Ouais. Et c'est ça qui le remplit.
Mais oui, mais en fait, je pense que si l'on est attentif, à partir du moment où on arrive comme ça à détricoter ce qui fait de nous, soi-disant, des individus souverains, etc., je crois qu'il y a tout d'un coup, c'est tout l'émerveillement devant la vie, mais y compris les formes de vie les plus dures, hein, les plus violentes, comme celles que je raconte là dans le livre, hein, c'est pas en contradiction justement. Quand il dit la mer n'est plus un ennemi, c'est la fin de toutes les contradictions, quoi. C'est au contraire, je fais corps avec cet élément-là et je peux être ému, heureux, y compris quand je suis face à des situations dramatiques, parce que je vois que chez, par exemple, ces jeunes filles que j'ai pu rencontrer, je vois qu'il y a une espèce d'attente devant la joie, des fois. Il y a des fois une très très grande souffrance, et il y a aussi cette souffrance n'est pas en contradiction avec des formes de joie. Et donc Asie, quand ils les aident, justement cette ONG, ils ne leur font pas la morale. Ça fait partie de la vie ce qu'elles vivent, mais il faut les aider à quitter cette violence là.
Alors outre cette question de l'empathie, qui est cette expérience là d'écriture, qui a été en tout cas la vôtre, vous ne vous exprimez pas vraiment, vous ne prenez pas vraiment position sur ce que vous pensez fondamentalement de la prostitution, puisque vous faites ces allers-retours entre clients et prostituées, vous dénoncez la violence ou la maltraitance, mais il y a quelque chose d'un peu flou, et d'ailleurs même au début vous brouillez un peu les pistes sur ce sujet-là, Arnaud Vertina.
Oui, c'est un sujet qui est trop compliqué pour mes frêles épaules. On voit partout dans la prostitution la trace de la domination masculine et de la violence des hommes, de la violence dont sont capables les hommes ou le masculin. Donc ça, c'est quelque chose qui me dégoûte, qui m'effraie profondément. Mais je suis obligé de m'en tenir à ça parce que ensuite les questions sont trop complexes. Il y a aussi toute une partie de la vie prostituée, homme ou femme. Ou transgenre qui fait ça volontairement. Donc il y a d'un côté la question des réseaux et de l'esclavagisation qui évidemment doit être combattue et qui est ignoble, et puis il y a une autre partie de la vie prostituée qui est un peu d'une autre nature. Donc moi je suis pas là pour j'ai pas écrit un essai justement sur la prostitution. Je vois juste que ces jeunes filles souffrent d'une situation qui est ignoble et dont nous sommes en partie responsables, puisque il y a encore des formes de néocolonialisme français au Congo.
Alors, à travers justement ces deux tendances de la prostitution dont on sent qu'elles vous échappent et vous souhaitez qu'elles vous échappent dans l'écriture, ça fait partie de cette volonté de creuser en nous une place pour elles, c'est ce que vous dites dans le livre, Arnaud Vertina, de laisser une place pas complètement cerclée, en fait,
exactement,
autour de cette question.
Exactement, essayer de faire que les choses restent ouvertes. En fait, l'écriture, elle est souvent là, j'ai l'impression, moi, pour désincarcérer les personnes et ne pas penser que si elles font ça, c'est intégralement la trace de leur absence de liberté. Des fois, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, à 17h, quand elles quittent l'enceinte de l'ONG, elles sont excitées comme des adolescentes qui sortent en boîte de nuit, alors qu'elles savent très très bien, bien mieux que moi, ce qu'elles vont vivre le soir.
Ça a été votre plus grande surprise, on a le sentiment dans le livre, qu'elles ne s'expriment pas tant que ça sur la prostitution, mais qu'elles parlent plutôt de l'abandon par leurs parents ou de la manière dont elles ont dû quitter leur foyer.
Exactement, ça a été une grande surprise. Je pensais qu'elles se confieraient sur la prostitution et en fait, ça y est, elles ont déjà le cuir épais parce que ce qu'elles ont vécu de traumatisant, elles l'ont vécu quelques années plus tôt en étant abandonnées par leurs parents, en se retrouvant à la rue, en étant déclarées sorcières de manière à ce que leurs parents ne les aient plus à charge, etc. Et en fait, c'est cette scène-là qu'elles refont, qu'elles rejouent en permanence et qui continue de les attrister d'une manière très très dramatique.
Mais ces silences-là, ils sont dans le livre, hein. Silence, point de suspension, point de suspension, retour à la ligne. Merci Arnaud Vertina.
Merci à vous.
Tu ne t'intéresses pas à mon âme. C'est à mon corps que tu en veux. Dès que tu m'aperçois, tu t'enflammes. Mais mon cœur ne te met pas en feu. J'ai pourtant au fond de la poitrine toutes les qualités féminines. Mais de ce sein de jeune oiseau, tu ne veux toucher que la peau. Que les âmes sont sues. Sont super au ciel, que les hommes sont superficiels. Je t'offre un amour poétique, mais tu ne cherches absolument qu'à détailler toute ma plastique. Tu ne sais vraiment penser qu'à ça. Pour toi, je ne suis que de la chair. Pour toi, c'est ma matière première. Mais j'ai du cœur, du sentiment, de l'idéal tout le tremblement. Que les hommes sont sus, sont super au ciel, que les hommes sont superficiels. Les poètes disent que les femmes sont des fleurs, des roses, des choux. Oui, mais pour déposer leur flamme, ils ne pensent qu'à notre cou. Nous avons beau être des étoiles, des déesses plus ou moins sans voile, ils reviennent obstinément à notre petit firmament. Que les hommes sont super au ciel, que les hommes sont superficiels, que les hommes sont sont super au ciel, que les hommes sont superficiels.
Et on entendait la chanson d'Amanda, Zizi Jeanmaire, la chanteuse et aussi ballerine et comédienne dont nous venons d'apprendre la disparition à l'âge de 96 ans.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Et on continue sur France Culture, il est 13h30 et on accueille autour de la table Stéphanie Karadec, Thierry Schoffhauser et Marina Silva Duarte. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors vous avez chacun des avis différents sur ce dont nous allons parler aujourd'hui, mais une question nous rassemble aujourd'hui, c'est les questions qui ont traversé le confinement et la manière dont les travailleurs du sexe slash prostituées, selon la sémantique que l'on utilise, ont été traversés eux aussi par cette crise et victimes de cette crise. Peut-être Thierry Schoffhauser, quelques mots sur ce sujet. Vous en parlez régulièrement aussi dans votre blog. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Là, de la manière dont elle a surprécarisé des gens qui l'étaient peut-être déjà.
Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, finalement, le confinement a été concrètement ce que la loi, les abolitionnistes, les prohibitionnistes veulent, c'est-à-dire qu'on était obligé d'arrêter de travailler. Et en fait, ça a été un des pires moments de notre existence, puisque concrètement, ça veut dire qu'on n'a plus de revenus. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont retrouvées à la rue, qui n'ont plus payé leur chambre d'hôtel. Ça veut dire que il y a des personnes qui, enfin voilà, qu'il a fallu s'auto-organiser au niveau de la communauté pour organiser l'aide alimentaire, les kits de prévention, et nous avec le STRAS mais d'autres organisations de travailleurs du sexe aussi.
Bon, alors vous dites nous au nom du STRAS, mais vous êtes aussi travailleurs du sexe, donc parlez, vous dites nous en ce nom-là, je le précise. Oui. Et donc vous êtes intervenu particulièrement au STRAS pour venir en aide des travailleurs qui perdaient leurs revenus.
Oui, parce qu'en fait, nous, on a zéro subvention, zéro argent de l'État. Donc, on a dû faire appel à la générosité du public et on a réussi à récolter un peu plus de 60 000 euros qu'on a redistribué ensuite directement auprès de la communauté. Il y a je ne saurais pas dire exactement combien de personnes, mais plus de 1000 personnes, en tout cas, ont été aidées. Ce qui montre aussi que quand les travailleurs et travailleuses du sexe s'auto-organisent, ça fonctionne.
Alors, il y a eu plusieurs entreprises, il y a eu des cagnottes organisées sur Internet, il y a eu plusieurs systèmes pour essayer de venir en aide aux travailleurs du sexe.
Alors, il y a eu soit des virements directement pour les personnes qui avaient un compte bancaire, soit des livraisons via les différentes associations de santé communautaire ou différents types d'associations qui ont déjà une file active de personnes usagères de l'association, ou alors des relais. En fonction des contacts, puis ensuite les associations pour distribuer concrètement l'aide. Et puis on a réussi quand même à obtenir de la part du ministère du Logement des chèques emploi-service, donc qui ont été distribués en fonction justement du nombre de personnes qui avaient été identifiées via toutes les différentes assos, y compris d'ailleurs les associations abolitionnistes. Donc voilà, concrètement, ce qui a été fait au niveau du tissu associatif pour aider durant cette crise, durant ce confinement.
Alors Stéphanie Karadec, vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et directrice du NID. En ce qui concerne justement la question du confinement, il y a une démarche de toutes les associations pour venir en aide aux prostituées, travailleurs du sexe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé du côté du NID?
Alors oui, nous on a constaté aussi que les personnes prostituées ont été particulièrement touchées par la crise pour plusieurs raisons. On a eu des multiplications des situations d'urgence. On a eu une connaissance de victimes de proxénétisme qui a pu être délaissée par les réseaux, parfois 4, 5 dans 25 mètres carrés, avec plus aucun moyen de survie, aucune connaissance, information sur ce qui se passait à l'extérieur, ou au contraire des personnes davantage pressurisées, avec des violences supplémentaires et des contraintes pour aller sur les lieux de prostitution malgré la crise. Donc ces personnes ont pu prendre contact avec nos associations, ce qui n'était pas forcément le cas pour toutes à ce moment-là.
Alors quels sont les problèmes qui se sont posés? La question des lieux, de l'accession aux lieux de prostitution?
La question de l'hébergement, parce que quand vous êtes à 4 ou 5 dans 25 mètres carrés en insécurité, il y a la question de l'hébergement qui rentre en ligne de compte, avec des centres d'hébergement d'urgence qui étaient confinés, et le 115 sur de nombreux territoires qui nous laissaient sans solution. Donc nous, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec la Fondation des Femmes via le programme Toutes Solidaires qui venait en aide aux femmes victimes de violences, qui nous a permis d'héberger dans de bonnes conditions des personnes. On a aussi le problème du surendettement, du paiement des loyers pour justement pas accentuer la précarisation des personnes qui étaient déjà en situation de précaire, mais logées, enfin avec un appartement. Donc on a pu aussi payer des loyers et on continue de le faire. Parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que la crise, elle s'arrête pas maintenant. Enfin, elle s'est pas arrêtée au déconfinement. On a une multiplication des situations de précarité et on a une responsabilité de l'État d'apporter des réponses par rapport à ça. Pendant la crise, c'est surtout la solidarité interassociative qui a joué. Moi, je pense que les personnes prostituées ont été les grandes oubliées de cette crise. On a beaucoup parlé des femmes victimes de violences conjugales et à raison. Mais en l'occurrence, là, on était un peu le trou dans la raquette. C'était les personnes précaires, les personnes victimes de violences conjugales, mais les personnes prostituées, elles étaient un peu oubliées. Donc nous, on a interpellé, on a fait un courrier au président de la République demandant 3 garanties dignité, qui étaient un droit au séjour pour toutes et tous, un hébergement gratuit et une allocation au-dessus du seuil de pauvreté. Et ça, on n'a pas eu de réponse par rapport à ça. On a eu des réponses un peu après confinement sur les chèques services dont parlait M. Schaffhauser. On a eu des commissions départementales de lutte contre la prostitution qui se sont tenues dans certains départements pour répondre aux situations, mais un peu post-urgence. Et il va y avoir maintenant des réponses à apporter pendant le déconfinement. Nous, on a énormément de personnes, 300 nouvelles personnes par rapport aux milliers de personnes qu'on accompagne, qui ont pris contact avec l'association et qui demandent à être accompagnées.
Avec un protocole sanitaire mis en place aussi, des recommandations, on va y revenir. Peut-être quelques mots, Marina Silva-Duarte. Alors vous êtes post-doctorante, vous travaillez sur les questions de genre et de transgenre. Vous avez fait une thèse sur l'immigration brésilienne des transgenres et des travestis. Vous vous êtes engagée au sein de l'association PAST, de prévention, action, santé, travail pour les transgenres. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire de la Covid? Est-ce qu'il y a eu des mesures particulières qui ont été prises qui touchaient la communauté transgenre?
Oui, le PAST, lors du déconfinement, on a fermé l'association pendant une semaine, mais on a vite aperçu que les prostituées transgenres, ils étaient vraiment dans la précarité. Surtout les transgenres venus de l'Amérique latine qui n'ont pas de titre de séjour. Alors on a réouvert l'association et on a réussi un enveloppe de 8 000 euros pour livrer des colis alimentaires, des colis des soins primaires aussi. On a eu des problèmes qui c'était les problèmes généraux les plus graves, c'est les problèmes d'hébergement. Les filles, elles n'avaient pas les moyens de payer l'hôtel.
Et les lieux dans lesquels on est confiné aussi, ça peut poser aussi certains problèmes de sécurité, de stigmatisation. Peut-être c'est une question que vous avez vu aborder, Thierry Schaffhauser.
Je pense que les lois sur proxénétisme aussi créent un souci par rapport à l'accès au droit au logement.
Alors là, vous faites allusion à la loi de 2016?
Non.
Ah bah, l'accès au logement, pardon.
Les lois sur proxénétisme sont beaucoup plus anciennes. Mais en fait, nos propriétaires sont considérés comme proxénètes au regard de la loi. Donc là, le fait de se retrouver dans une situation où on est confiné et on est... Enfin, il y a eu des révélations du fait qu'on était prostitué, qu'on était travailleur du sexe, parce que il y a plus de... Il y a plus de dénonciations, il y a du voisinage qui, les gens restent à la maison et voilà, enfin ça a été un moment où il y a eu cette fragilité-là qui s'est accrue aussi parce que
ça a révélé le statut, c'est ça? Parce que ça a révélé l'activité de certains?
Oui, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus moyen de, enfin, vous mentez à votre propriétaire, vous dites que vous avez un autre travail. Là, en fait. Concrètement, le travail que vous faites réellement, vous ne pouvez plus le faire. Parce que, vous ne pouvez plus mentir, en fait. ou en tout cas, il y a des mensonges qui se révèlent. Et du coup, le propriétaire, légalement, ils sont tenus de vous expulser. Donc il y a des situations de fragilité aussi qui sont... par exemple, quand on parle des personnes qui sont à l'hôtel, qui se retrouvent à la rue, pourquoi est-ce que les gens sont à l'hôtel déjà à la base? Parce qu'il y a une difficulté d'accéder au logement qui est l'absence de droit de séjour, le fait de ne pas avoir de fiche de paie, le fait de et plus les lois sur proxénétisme.
L'interdiction d'héberger ce genre d'activité. Interdiction
d'héberger un travailleur ou une travailleuse du sexe. Donc là, si vous rajoutez une crise sanitaire en plus, ça révèle encore... Moi, je pense que cette crise, elle a révélé des dysfonctionnements du système en général, en fait.
Alors, parmi les prostituées travailleurs du sexe, il y a plusieurs statuts différents, des conditions qui sont bien différentes. Il y a un statut qui a été discuté, qui était aussi le statut d'auto-entrepreneur. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a changé pour eux, Thierry Schaffhauser, justement? Est-ce que ça a permis quand même des aides? Il y a eu certaines aides qui ont été mises en place.
Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant que on a interpellé le gouvernement, y compris le président de la République, d'ailleurs, puisqu'on a fait une lettre ouverte au président de la République, alors de demander un fonds d'urgence pour répondre à la nécessité d'avoir des revenus quand on ne peut plus travailler. Et j'ai trouvé très intéressant que la réponse de Madame Schiappa, qui a dit c'est possible pour les personnes qui sont déclarées en auto-entreprise, et sinon, il n'y avait rien. Donc, en fait, ça montrait bien que c'est via le droit du travail, qu'on accède à une protection sociale. Et la raison pour laquelle on revendique depuis toujours la question du droit du travail, c'est justement dans les situations d'accident de la vie, dans les situations de maladie, pour la retraite, parce qu'à un moment donné, on a besoin de ne plus travailler. Donc en fait, quand on revendique le droit du travail, c'est pas pour travailler plus, c'est justement pour avoir des protections, pour pouvoir ne pas travailler aussi. Et qui sont en fait beaucoup plus efficaces que ce qui est en place. Parce que ce qui est en place aujourd'hui, par exemple le parcours de sortie de la prostitution, ça a aidé environ 400 personnes en 4 ans. Et ça n'a pas du tout, c'était complètement inadéquat par rapport à la crise sanitaire et le confinement. Parce que là, du jour au lendemain, tout le monde a dû arrêter, tout le monde était sorti de la prostitution. Sauf que là, il y avait
mais
rien.
Mais sans revenu.
Et sans revenu... Il y avait rien. Alors, sauf pour les personnes qui ont été effectivement déclarées. Mais pourquoi on n'est pas déclaré? Parce que Mme Schiappa a dit, oui, c'est la nature de la prostitution. Mais c'est pas la nature de la prostitution. C'est le fait que, quand vos clients sont pénalisés, quand même si vous avez un titre de séjour, vous n'avez pas forcément de permis de travail avec votre titre de séjour, qu'il y a des lois sur le proxénétisme, il y a plein de choses qui entravent l'exercice du travail sexuel, plus les discriminations, etc. Évidemment que vous réfléchissez à deux fois avant de vous dire, est-ce que je me déclare ou je me déclare pas? Parce que c'est quoi les droits qui sont ouverts? Le statut d'auto-entreprise, effectivement, ça ouvre des congés mat, ça ouvre quelques droits, mais c'est quand même assez faible par rapport à d'autres... Par exemple, le statut salarié est beaucoup plus protecteur. Donc, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont pas vouloir se déclarer, mais là... Enfin, du coup, y avait vraiment rien.
Stéphanie Karadec, vous qui avez un autre point de vue, le NI, ça a été dit, c'est une association abolitionniste. Quel a été le point de vue, justement, sur ces statuts-là qui étaient déjà discutés auparavant, la question d'être auto-entrepreneur ou pas, et des protections qui n'accompagnaient pas forcément ce statut?
Oui, alors, il y a eu aussi donc la proposition d'avoir un revenu de remplacement que vous aviez proposé. Pour nous, ça, c'est une réponse qui ne correspond pas aux situations qu'on rencontre. C'est-à-dire que c'est soit les personnes, elles sont effectivement déclarées en tant qu'indépendantes. Et donc, à ce moment-là, elles avaient des droits ouverts comme tout indépendant. Soit elles sont au RSA et elles n'ont pas envie de déclarer des revenus de la prostitution au risque de perdre ce RSA. Soit elles sont, et c'est l'extrême majorité des personnes qu'on accompagne, elles sont sans aucun droit social parce qu'elles sont sans papier, en situation irrégulière sur le territoire. Et que là, en l'occurrence, cette réponse-là, elle n'aurait pas pu répondre à ces situations-là. C'est ça, l'écrasante majorité des personnes prostituées en France, qui d'ailleurs ont des ressources qui sont, le ministère de l'Intérieur avait fait un rapport en 2013 là-dessus, leurs ressources sont spoliées par les réseaux. Pour les personnes nigérianes, ce rapport faisait état que c'était 96% de leurs ressources qui revenaient au réseau proxénète. Pour les femmes d'Europe de l'Est, c'est 80%. Donc on va remplacer quelles ressources? La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on permet à ces personnes d'avoir le choix d'avoir une autre vie, parce que nous, c'est ce qu'on a entendu pendant la crise du Covid, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, cette pause-là fait que je veux pas y retourner. Donnez-moi la possibilité de ne pas y retourner. Je pense à Blessing, à Montpellier, qui l'a dit très clairement, je me sens reposée, je me sens bien dans ma tête et dans mon corps, je veux pouvoir ne pas y retourner.
Alors bon, les avis divergent sur cette question, on va peut-être revenir sur cette question, Marina Silva Duarte, sur la question des travailleurs du sexe sans papier. Vous, qu'est-ce que vous avez pu constater du côté du PAST?
Du PAST, la la majorité des personnes n'ont pas de papiers, sauf celles qui ont, par exemple, le VIH. Et du coup, elles ont la possibilité de rester sur le territoire pour se soigner.
Pour se soigner.
Mais la partie qui n'a pas, qui sont séronégatives, la plupart, elles sont complètement démunies. Et ce que Thierry disait, en fait, il faut souligner que les loyers pour les travailleuses du sexe et pour des personnes transgenres, ils sont beaucoup plus chers que pour des personnes qui ont des papiers ou qui ont leur genre correspondant à leur genre de naissance. Et alors, l'urgence, vraiment, c'est l'hébergement pour ces personnes qui sont une grande partie aujourd'hui dans la rue.
Comment elles ont fait pendant cette crise-là? Qui s'est mobilisé pour les aider? Ouais, mis à part les associations, c'est uniquement la solidarité qui leur a permis de vivre?
La communauté, entre elles, elles s'aident beaucoup. C'est entre elles et dans les associations. Et alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment soutenir les associations.
Thierry Schaffhauser, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question des protocoles qui ont été mis en place pour ceux qui ont continué à travailler ou qui recommencent à travailler depuis le déconfinement? Est-ce qu'il y a des sortes de guides de pratique qui ont été mis en place pour faire attention à ces questions sanitaires? Et est-ce que l'expérience plus ancienne d'autres pandémies a pu servir, a pu aider?
Alors oui, effectivement, on a effectivement... Le mouvement des travailleurs et travailleuses du sexe est très ancré dans le mouvement de la lutte contre le sida depuis les années 80. D'ailleurs, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a la rupture avec les abolitionnistes, hein, puisque on développe l'idée de réduction des risques et pas seulement...
Aussi, hein. C'est aussi...
Vous distribuez des préservatifs aussi?
On distribue des préservatifs à la demande, bien sûr.
Ça montre qu'on a évolué depuis les années 80. Mais
on a toujours fait la réduction des risques, même si le fait de donner un préservatif n'est pas la première des démarches quand on va à la rencontre, parce qu'on ne préjuge pas, on ne présage pas des besoins et des demandes des personnes. On vient d'abord pour venir dire on est là et s'il y a besoin, vous pouvez nous rejoindre à nos permanences d'accueil. Mais le préservatif est toujours dans le sac, il a toujours été donné et il n'y a pas eu de rupture par rapport à ça.
Thierry Schaffhauser, sur la question du protocole sanitaire et des pratiques.
Alors oui, effectivement, nous on a mis ça en place assez rapidement en fait, hein, parce que c'est un besoin aussi qui est remonté de la communauté, c'est-à-dire que très rapidement via le service juridique, on a eu beaucoup de collègues qui nous ont contactés pour nous dire mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux continuer à travailler ou pas. Ça c'était un peu une question aussi parce que en théorie. Pour des raisons professionnelles, on pouvait sortir de chez soi, sauf que des personnes qui ont écrit leur attestation en disant qu'elles allaient au travail, elles ont quand même été mises à l'amende, elles ont quand même été pénalisées. Donc là, on a eu une sorte de repénalisation du racolage, d'ailleurs, à l'occasion de ce confinement.
Fait en tant que tel.
La police, quand ils voyaient les travailleurs du sexe dans la rue ou sur des lieux de travail du sexe, ils ont mis effectivement des amendes parce qu'ils considéraient que c'était pas un travail et que donc il fallait que les gens restent chez eux. Et il n'y avait pas du tout de pensée de comment les gens font pour vivre.
Alors là, on arrive en plein milieu du vide juridique, Marina Silva Duarte. Hein, c'est la question de économie souterraine, l'économie réelle. Qu'est-ce qui se passe? On arrive en plein conflit.
Oui, c'est un conflit, mais je crois que les filles, elles continuent à travailler au Bois de Boulogne. Par exemple, pendant le confinement, j'ai fait la prévention, j'ai compté 30 personnes dans le bois. Alors, il n'y avait pas de choix, il fallait aller travailler. Il y avait très peu de clients dans le bois. Du coup, parfois, les filles attendaient une journée pour faire une passe.
Et comment faire pour ne pas prendre de risques pour sa propre santé aussi? Comment est-ce que vous avez imaginé ces questions-là d'un point de vue associatif, Stéphanie Karadec?
Nous, on est en soutien au quotidien pour que les personnes, elles n'aient pas besoin d'y retourner. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui encore des colis de produits de première nécessité. C'est quand les enfants étaient encore à l'école, mais confinés, pouvoir équiper en ordinateur les enfants pour qu'ils puissent continuer. C'est payer les recharges téléphoniques pour éviter un isolement. C'est continuer de payer les loyers. On est toujours, nous, dans cette phase de crise. Et elle va pas se terminer tout de suite. D'autant qu'avec l'augmentation des violences intrafamiliales, dont on a beaucoup parlé pendant la période du Covid, et la précarisation notamment de beaucoup de jeunes, nous on craint que si les réponses du gouvernement en direction de la précarisation de la jeunesse soient pas à la hauteur, on ait une augmentation des demandes aussi.
Et pour ceux qui retournent travailler, Thierry Schaffhauser, comment est-ce que les choses se déroulent? Est-ce que l'activité de travailleurs du sexe s'est déplacée sur le numérique? Est-ce que finalement l'activité en ligne a pris le dessus parce que on imagine que même si un certain nombre de gestes sont mis en place, barrières, ça paraît quand même compliqué.
Alors, effectivement, il y a beaucoup de collègues qui ont essayé de devenir camgirl, c'est-à-dire de faire du travail du sexe virtuel sur Internet, en vendant des nudes en faisant des vidéos. Mais c'est pas simple, parce que c'est un vrai risque de stigmatisation et d'exposition. Et il y a beaucoup de revenge porn, il y a beaucoup de cyberharcèlement. Voilà, les travailleurs du sexe sont très harcelés, très ciblés sur Internet. Donc c'est pas simple.
Plus que dans leur vie.
Déjà, les femmes en général sont très facilement harcelées sur Internet, mais les travailleurs du sexe encore plus, y compris les actrices porno, enfin tout type de travail du sexe en ligne. Quand on est identifié, il y a pas de protection par rapport à ces violences là et puis pour le travail de rue en ce moment c'est très dur parce que du coup tout le monde retourne travailler au même moment, donc il y a une sorte de compétition et
de concurrence
très forte, alors que les clients alors les premiers jours du déconfinement oui il y a eu pas mal de clients, mais depuis le virus est toujours là, la pénalisation des clients est toujours là, donc en fait on est dans un contexte de travail qui est très difficile parce que il y a eu des dettes qui se sont accumulées pendant le confinement parce qu'on pouvait pas travailler. Faut rembourser les dettes, faut travailler, sauf que il y a pas beaucoup de clients et par contre tout le monde est là en train de travailler au même moment.
Mais est-ce que les pouvoirs publics ont quand même fait des propositions dans le sens d'aide autre que ponctuelle?
J'ai trouvé intéressant la réponse de Schiappa dans Tétu qui disait on pouvait pas répondre positivement à la demande de fonds d'urgence parce que ça aurait été mettre les associations en position de proxénétisme. Et je trouve que sa réponse est tellement flagrante de son incompétence parce que concrètement, on a fait de l'aide pendant. Déjà, on faisait pas de l'aide à la prostitution, mais plutôt de pouvoir ne pas travailler. Et concrètement, on a toujours fait de l'aide et de la réduction des risques. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que alors. Mais c'est peut-être le problème justement de se faire appeler lobby proxénète depuis des années. Cette confusion-là, elle est vraiment préjudiciable.
C'est l'heure de la chronique. Merci Stéphanie Karadec, Thierry Schaffhauser et Marina Silva Duarte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle aussi le titre du livre d'Arnaud Bertina, L'âge de la première passe. Et tout de suite, la chronique de François Sureau.
Eh bien, nous sommes ici au kilomètre 248 depuis la source de la Seine et nous sommes dans une petite rue qui descend à Créteil, à l'écart. On voit Créteil en général comme une ville et ceci est plutôt un village qui ressemble à Montmartre avec des arbres, avec des ormes, avec quelques platanes, quelque chose d'assez méditerranéen et qui descend vers le fleuve en pente douce. Et nous sommes ici dans un endroit absolument extraordinaire qu'on a qualifié de Villa Médicis. Avant la lettre de Villa Médicis non officielle, nous sommes ici à l'abbaye de Créteil. L'abbaye de Créteil est un rêve fraternel, un rêve d'écrivain, un rêve d'artiste, un rêve fourriériste. Et c'est ici, dans cette maison qui est en face de nous, qui a été restaurée, qui est toute blanche, avec un grand parc et des communs aux façades mangées par le lierre sur la gauche. C'est ici qu'en 1906, Vildrac et Georges Duhamel, inspirés par l'abbaye de Thélem de Rabelais, décidèrent de fonder un phalanstère d'artistes dans une bâtisse à l'abandon. Et ils s'y sont installés comme les moines de l'ancien temps. Ils voulaient vivre ensemble, comme dans une communauté hippie des années 70, avec femmes et enfants, avec des artistes venus de tous les horizons, dans un esprit très européen, très ouvert, très international. Et il fallait que ce phalanstère puisse vivre, et donc ils ont créé une maison d'édition, et c'est là que se sont rassemblés Picard Ledoux, Jean-Pierre Jeanjouve, Doucet, ou même Marinetti, et puis pour finir, Jules Romain. La Justice, qui était le journal de Georges Clémenceau, a écrit « Les artisans de Créteil sont artistes pour servir leur idéal et ouvriers pour gagner leur pain ». Et puis ce rêve fourriériste ne se dissipa assez vite et il ne dura pas 2 ans. Les artistes se divisèrent, les artistes mis ensemble ont souvent de la difficulté à vivre ensemble, et ils se divisèrent sur plusieurs choses. Ils se divisèrent sur le rôle des femmes, il y avait ceux qui en tenaient pour les femmes à la cuisine et ceux qui en tenaient pour les femmes égales des hommes, avec des femmes assez remarquables d'ailleurs. notamment Albane, qui était une artiste que Jules Romain rencontra là et qu'il finit par épouser. Ils se divisèrent aussi à propos des honneurs. Il y avait ceux qui voulaient l'Académie française et ceux qui ne voulaient pas l'Académie française. Et puis, il y a eu, il faut bien le dire, les ambitions de Jules Romain, qui était à l'époque l'infatigable prosélyte de l'unanimisme et qui voulait convertir tout le monde à cette espèce de doctrine étrange qu'il avait inventée. La maison d'édition qu'ils avaient fondée, qui a imprimé ici, a publié pas mal de titres avant de fermer, notamment La vie unanime, le célèbre titre de Jules Romain, Artificiel de Pierre-Jean Jouve, et puis même des textes de Mécislas Goldberg, trop oubliés aujourd'hui, et qui était un écrivain anarchiste qui avait créé le journal Sur le Trimard, et dont André Rouvert, l'ami d'Apollinaire, a laissé une eau forte absolument magnifique. Les amateurs de crimes, si je puis dire, se souviendront que le fils de Mécislas, s'appelait Jacques Mécislas Charrier Goldberg, dit le bandit aux gants gris, a été guillotiné en 22 pour sa participation à l'attaque d'un train et est monté à la guillotine avec ses gants gris en chantant le chant antimilitariste « Gloire au 17e », chant à la louange des mutins du 17e régiment d'infanterie. Plus tard, l'aventure de l'abbaye est totalement tombée dans l'oubli et n'a été retrouvée que par des auteurs et des critiques américains dans les années 60 qui en ont fait l'ancêtre des communautés de Californie, quelque chose qui pourrait ressembler, vous savez, à la chanson d'Yves Simon dans San Francisco. C'est une maison bleue accrochée à la colline. Voilà. Alors nous sommes dans la maison bleue qui a d'ailleurs des volets bleus accrochés à la colline. Et cette aventure a été décrite, on le sait, par Georges Duhamel dans un livre un peu amer qui s'appelle « Le désert de Bièvre ». C'est pour moi l'occasion aussi d'évoquer un personnage qui est lié à l'histoire de la Seine et qui est lié à la nostalgie de Paris et de la Seine, qui est Stefan Zweig, dont vous vous souvenez qu'il s'est suicidé après avoir appris au Brésil l'entrée des Allemands dans Paris en 1940 et qui est l'auteur du magnifique Monde d'hier. Dans le Monde d'hier, on trouve un portrait de l'un des protagonistes de cette aventure qui s'appelait Léon Bazalgette, que Zweig avait connu par Vereren. Il dit simplement, Zweig, dans le monde d'hier, c'est seulement dans l'amitié spirituelle avec les vivants que l'on pénètre les vraies relations entre le peuple et le pays. Tout ce qu'on observe du dehors reste une image inexacte et prématurée. Et Zweig décrit dans le monde d'hier, à partir de Bazalgette et de cette aventure de l'abbaye de Créteil, décrit une sorte d'Atlantide parisienne et qui était absolument extraordinaire. C'était des gens qui, d'une certaine manière, pour lesquels, bien qu'assez pauvres pour la plupart, le travail restait une malédiction. Il n'y avait pas de rendement comme aujourd'hui, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de publicité. On ne cherchait ni l'assentiment du public, ni les grands tirages. Les femmes, écrit Zweig, étaient paisibles et fraternelles. Seul celui qui a vécu dans ces milieux en ami, en camarade, sait ce qu'est la France véritable. Bazalgette fut... dans cette époque de l'abbaye de Créteil, pour Zweig, un ami incomparable, c'était le traducteur de Whitman et de Thoreau, et qui se prit de passion pour la première révolution russe et commença à écrire pour l'humanité et puis pour Clarté. C'était le moment vers 28-30 où Saint-Exupéry publiait Courrier Sud et où Malraux publiait Les Conquérants. Et c'est ainsi qu'on... On peut penser ici à ce changement d'époque où on rêve de l'amitié, d'une amitié assez apolitique d'une certaine manière, a succédé dans les années 30 le rêve de l'action. Pour moi, l'aventure de cette abbaye de Thélem, qui était l'abbaye de Créteil, reste inséparable du livre de l'un des auteurs qui a vécu ici et qui était Jules Romain, avec le magnifique « Les copains » dont tout le monde se souvienne. Ses copains sont sept, comme les cavaliers de l'Apocalypse. Ils vont à vélo dans la nuit et ils infligent au monde bourgeois toutes sortes de tourments, montant des canulars, ayant trait à la prise d'assaut d'une caserne par de faux envoyés du ministre de la Défense, enfin du ministre des Armées à l'époque, une fausse inauguration de statue, un faux sermon prononcé dans une église et invitant aux rutes orgiaques la totalité des paroissiens. Et au fond, c'est ici aussi qu'on peut... mesurer tout ce que les copains doivent à ce retrait du monde, à cet écart, à cette drôlerie, par lequel tout un ensemble d'artistes et d'écrivains ont voulu prendre de vitesse, non pas seulement les crustacés eux-mêmes, comme disait Gide, qui divisait le monde en subtils et en crustacés, prendre de vitesse ce monde et aussi s'écarter par l'immobilité de ce monde voué au culte d'idoles absurdes qui sont la seule cause des maux dont nous cessons de nous plaindre. Et au fond, chaque moment de l'histoire attend les copains de Jules Romain. Il y a quelques années de ça sur France Culture, à la fin du siècle dernier, Jean Lebrun machinait des farces pour le 1er avril qu'on aurait dit tout droit sorti du cerveau des copains de Jules Romain. Conversion de Clovis à l'islam, attesté par le déchiffrement phonographique des débris du vase de Soissons, miracle accompli post-mortem par François Mitterrand, disparition dans le chaos balkanique de la moins connue des républiques yougoslaves, la Vesturie, la vie secrète de l'immense cité de Ponto Combo, entre la maison de Humboldt, la statue de Marguerite Duras et le bistrot chinois, où les nègres d'Alain Perfitte ont écrit tous ses livres. Gloire à l'abbaye de Créteil, à Villedrac, à Duhamel, à Jules Romain, à leurs copains. Gloire à Jean Lebrun et à ses amis.
Et gloire à François Sureau qu'on retrouve lundi. Nous aussi, on se retrouve lundi à 12h45 pour une nouvelle grande table consacrée à l'Amérique des armes autour du roman graphique L'homme qui tua Chris Kyle. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Shushan Jergaillon, Lou Quevauvilliers, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Marie Placé, à la technique Jacques Hubert. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.